Bonjour, moi je suis Chloé Coudray, donc je vais me présenter, ça va être plus simple avec aussi l'image de Game Only et pour qui je travaille. Donc moi, vous voyez bien, je suis pas du bon en ça. Moi je travaille pour Game Only, donc qui est l'association des studios de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on a globalement à peu près une centaine de studios. Alors c'est pas que des studios, hein, c'est des studios, mais c'est aussi des boîtes qui bossent pour les studios et qui font des services pour eux. On a globalement à peu près 4000 personnes et 850 millions de CA, qui est globalement la seconde région française en termes d'écosystème du jeu vidéo. Et moi, je travaille donc pour un projet porté par Game Only qui s'appelle le projet Giros. Et Giros, c'est un ensemble de choses, mais c'est surtout et avant tout une plateforme technologique. Donc c'est un site sur lequel tous les studios et les entreprises du jeu vidéo peuvent se connecter pour pouvoir aller calculer leur empreinte carbone, enfin leur empreinte environnementale. On va au-delà du carbone. Et en plus de ça, on propose aussi pas mal de ressources gratuites sur notre site qu'on a créé nous-mêmes ou juste en les liant à partir de ressources qu'on trouve en fait sur Internet, qui sont vraiment toutes liées à comment est-ce qu'on aide les studios à comprendre et à agir sur leur impact environnemental. On fait pas mal de formations, on participe à des projets de recherche, du coup avec l'ADEME, et on a une communauté Discord, donc tout ça pour dire qu'en fait on travaille beaucoup en écosystème, on travaille beaucoup avec des partenaires nationaux et internationaux pour essayer de s'appuyer sur ce qu'ont fait les autres. On ne travaille pas beaucoup avec la recherche encore, mais on aimerait bien pouvoir un petit peu travailler plus avec vous, avec eux. Et notre but, c'est vraiment, on est une association à but non lucratif et on essaye au maximum de travailler avec plus aussi de partenaires internationaux pour faire en sorte de développer notre plateforme et que ce ne soit pas qu'un outil franco-français, mais que ça devienne un outil vraiment européen, voire mondial. Il est déjà en anglais, mais bon, on n'a pas vraiment focus sur l'international. Et du coup, le but de ma présentation aujourd'hui, c'est un peu de vous d'essayer de vous donner les deux, trois clés vraiment de pourquoi est-ce que faire mon bilan environnemental, c'est important aujourd'hui, qu'est-ce que ça m'apporte en tant que studio ou en tant qu'entreprise, qu'est-ce que ça apporte en tant qu'entreprise. Vous donner un peu ces clés-là pour faire un peu d'awareness autour de vous. Mais surtout, de vous faire dans une session un petit peu interactive, mode quiz. Alors, soyez indulgents, c'est la première fois que je le fais, donc on verra comment ça se passe. Pour vous faire un peu tester, que ce soit vos réflexes en termes des actions qu'on peut conduire au niveau de son studio ou qu'on peut conduire au niveau de sa production dans son jeu pour réduire l'impact environnemental ou global du jeu sans impacter évidemment l'expérience des joueurs, parce que sinon c'est pas drôle. On sait que le réchauffement climatique, c'est une réalité, je pense que j'ai personne à convaincre ici, mais le message à faire passer quand même, c'est que c'est un risque aussi. Quand on veut pas, quand on a des incendies, quand on a des inondations, c'est compliqué d'aller au travail. Ça a été estimé par le World Economic Forum, qui estime que globalement, entre 5 et 25% de l'EBITDA des entreprises sera à risque d'ici à 2050, si elles mettent rien en place pour contrer le réchauffement climatique, pour adresser le réchauffement climatique. Donc il y a une vraie réalité pour les studios. Surtout les studios du numérique, parce qu'on dépend de la chaîne d'approvisionnement sur les produits numériques, et on voit qu'en ce moment c'est un peu compliqué. Et on voit que le jeu vidéo, il a quand même un impact. Alors c'est compliqué d'estimer l'impact du jeu vidéo parce qu'on est un peu un secteur hybride, on est toujours un peu hybride entre le numérique et la culture, mais globalement, pour les premières estimations, quand on regarde, il y a Ben Abraham, qui est un membre de la Sustainable Game Alliance, qui a fait tout un travail d'aller chercher tous les rapports sortis de CSRD de toutes les grosses entreprises, et qui globalement nous donne une estimation de le jeu vidéo, ça correspond globalement aux estimations annuelles aux émissions annuelles de la Suisse ou de la Norvège. Donc c'est quand même pas rien, c'est quand même un secteur qui pèse. Et donc on a tous on a quelque chose à faire. Les objectifs ont été mis en place. Il y a 108 pays qui ont défini des objectifs net zéro, c'est pas rien. Ça nous affecte tous, l'Europe, tous les pays dans lesquels on travaille. Alors bon, pas les États-Unis, mais peut-être un moment ils vont finir par y arriver. Tous les secteurs dans lesquels nous on travaille et pour lesquels on fait des produits ont mis en place des objectifs. Donc finalement, il y a un moment donné, ça ne peut pas en fait être ignoré pendant encore vachement plus longtemps par les entreprises. Et du coup, ça commence aussi à se traduire dans des législations qui se durcissent de plus en plus. Alors parfois, on revient un peu en arrière, ça a été le cas de la CSRD, mais normalement, on est quand même sur une récrudescence, une augmentation des législations, que ce soit sur la partie gestion des déchets, que ce soit carrément sur le numérique et comment est-ce qu'on crée des objets numériques, que ce soit sur le décret tertiaire, donc là c'est plutôt la gestion de son énergie et de ses bâtiments, de comment est-ce qu'on gère, comment est-ce qu'on optimise l'énergie consommée par ces bâtiments. Et enfin, il y a des obligations de reporting, on le voit avec la CSRD. Alors aujourd'hui, la CSRD, c'est vraiment que les grosses entreprises, plus de 1000 personnes, 450 000 de chiffre d'affaires, mais à terme, c'est quand même voué à se développer de plus en plus au sein des petites entreprises. Donc il y a vraiment une vraie réalité, et il y a une autre régulation qui est importante, et notamment nous, parce qu'on est une industrie qui, en jeu vidéo, on fait du contenu, donc on parle à des joueurs, on montre des informations aux joueurs, et on a surtout du contenu dans le jeu et du contenu qu'on market. Et donc ces deux interactions-là, il faut qu'on fasse très attention à ce qu'il n'y ait pas de conflit avec les lois, et notamment avec les lois sur le greenwashing, parce qu'elles se durcissent de plus en plus, elles évoluent en plus pas mal, et elles se focusent vraiment sur le fait de faire attention à ne pas dire des choses qui sont fausses, qui sont trop exagérées, ou qui donnent une fausse impression des actions qui sont mises en place par le studio. Donc on va avoir un premier quiz, mais je vais quand même vous donner la leçon avant. Rapidement, globalement, il y a six branches un peu du greenwashing. Le premier, c'est globalement l'absence de preuves. C'est quand on promet un truc et puis il n'y a rien derrière. Donc là, c'est une entreprise de pompes funèbres qui dit qu'on peut partir en classe écologique. On ne sait pas, ce n'est pas expliqué, c'est extrêmement bizarre comme message, mais ça a été fait. Donc voilà. Le deuxième, c'est une promesse qui est complètement mensongère ou disproportionnée. Donc là, par exemple, c'est un déo qui dit qu'on va libérer les planètes des émissions de CO2. C'est pas parce que vous réduisez la quantité de gaz dans votre bouteille de déo que soudainement vous allez libérer la planète des émissions de CO2. C'est que dalle, les émissions de CO2 dans une bouteille de gaz de déo. Surtout pas pareil, il n'y a pas de preuve, il n'y a rien. Le troisième, c'est quand on valorise des comportements contraires à la transition. Bon, alors là, on a une Jeep dans la forêt amazonienne, hein. Je pense qu'on comprend on peut comprendre le problème. Les trois autres, en quatrième, on a les éléments visuels, sonores ou trompeurs. Donc là, par exemple, on a un avion qui se transforme en planète. Bon, voilà, c'est pas dingue, ça donne quand même l'impression que l'avion, c'est super. Et puis les petits labels, là, comme ça, là, les petites feuilles, les petits logos 100% neutre en carbone, tout ça, c'est du greenwashing. Ça n'existe pas, il n'y a pas de label encore qui existe là-dessus. Ce n'est d'ailleurs pas possible d'être neutre en carbone. Horrible pour une entreprise à ce niveau-là, ou en tout cas aujourd'hui on n'a pas vraiment réussi à mesurer et à être capable de dire que ça a été le cas, parce qu'il faudrait revenir en arrière jusqu'au début de la création de la boîte. Donc c'est du greenwashing. Cinquième, on a la fausse amélioration. Alors celle-là, elle est vraiment sympa, parce que ça, c'est Burger King qui dit on a trouvé comment rendre nos boissons encore meilleures. Est-ce que vous comprenez pourquoi est-ce que c'est du greenwashing? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire pourquoi c'est du greenwashing concrètement? C'est sûr, ils l'ont fait, c'est super, ils ont enlevé toute la vaisselle plastique. Ils ont enlevé toute la vaisselle en papier. Mais en fait, ils n'avaient pas le choix.
C'était
dans la loi. Donc si tu fais une pub pour dire j'ai fait un truc super, mais tu n'avais pas le choix, c'est du greenwashing. Et enfin, mise en avant d'un élément à l'impact restreint, là, c'est une carte bancaire à qui on a retiré du plastique. Et on a fait du plastique recyclé. Alors, au cas où c'est pas clair, l'impact d'une banque, c'est pas la carte bancaire, c'est des investissements qui sont faits par la banque. Donc si vous vous filez votre argent à une banque et qu'ensuite ils vous disent « Ah super, vous réduisez notre impact parce qu'on a réduit le plastique », qu'est-ce que tu fais avec ma thune? C'est ça l'important, c'est ça l'impact d'une... Donc c'est vraiment un élément tout petit, on fait un super pub. Non, c'est du greenwashing. Ok? Donc, maintenant on a un petit quiz, comme ça on va voir si vous avez un petit peu intégré tout ça. Le premier, c'est donc une pub de Kiabi, que vous pouvez voir juste là. Alors, c'est un peu loin, mais j'espère que vous arrivez quand même à repérer les grands éléments, il n'y a pas beaucoup de texte. Et pourquoi, quel type de greenwashing? Alors, vous n'êtes pas très nombreux, donc je pense que je peux juste demander, voilà, vous pouvez afficher vos doigts si vous voulez. Voilà, je vois un 4 par là, ouais. Un 3 par là, ouais. Je me sens plutôt du 3, du 4. On est sur du 3, ok, ouais, comportement entretien. Eh bien, c'est effectivement le 3, parce que c'est une entreprise de vêtements, donc ils n'ont rien à foutre à montrer un pick-up au milieu de... Pourquoi le pick-up? Je ne sais pas. Donc, c'est vraiment de la valorisation de comportements contraires à la transition. Alors, on pourrait argumenter aussi de se dire 15 euros la veste en manche, bon, ça c'est de la fast fashion, mais on n'est pas en train d'attaquer le business model de Kiabi, donc on s'arrête quand même juste au truc de là, il y a un problème. Deuxième test, Fresco, qui parle de solutions 4 en 1 pour des emballages responsables. Et je vais vous lire le texte parce qu'on ne sait jamais. Alors, forte d'une longue tradition, Goglio est un véritable partenaire qui accompagne ses clients dans chaque prise de chaque phase du conditionnement du produit. Fresco System offre un système complet comprenant des emballages souples, barrières, des accessoires en plastique, des machines de conditionnement et un support technique d'haute qualité. Où est-ce qu'il est, le greenwashing ? Ouais, 1, ok. Sur le 1, ouais. Alors, petit piège, il peut y en avoir plusieurs. 1 et 4. 1 et 4, ouais, ouais. Eh ben ouais, c'est exactement ça, c'est 1 et 4, absolument. Parce qu'il n'y a pas de preuve, si on dit, on sait super, c'est vert, mais il n'y a rien derrière, et puis bah, on utilise un petit filtre à 4 feuilles, comme ça, c'est vert, c'est gratuit, c'est exactement du greenwashing. Autre, là, on parle de EasyJet. Alors, EasyJet, ils ont fait un truc super fort parce que là, ils ont dit « Notre ambition, c'est des vols zéro émission de CO2 d'ici à 2050. Pour atteindre cet objectif, nous collaborons avec Airbus et Wright Electric au développement d'avions dont les vols permettent zéro émission de CO2. Dont les vols permettront zéro émission de CO2. Nous nous engageons à vous accueillir à bord de ces avions zéro émission dès que ces technologies innovantes nous le permettront. » Ah, c'est génial, hein, la pub, vraiment, c'est super. Ouais.
5 et 2,
ouais. Fausse amélioration, ok. Promesse mensongère disproportionnée, ouais. D'autres ? Le 1, l'absence de preuve, ouais. Un peu tout, ouais, c'est pas ce que tu dis. Là, non, ce cas-là, ça a été plutôt décidé sur une absence de preuve, effectivement. Ce qu'on dit, on va le faire, mais alors, il n'y a rien derrière. Promesse mensongère ou disproportionnée. Franchement, les avions zéro émission. À moins qu'on se mette à faire fonctionner les avions en nucléaire, enfin, et même là, je vois pas le concept en fait. La fabrication de l'avion, c'est impossible. Enfin, voilà. Donc, effectivement, bravo, vous êtes quand même pas trop mal sur le greenwashing. Il y a un portail gouvernemental, parce que je vous ai parlé plein de trucs, je ne vous ai pas tout expliqué évidemment, mais il y a un portail gouvernemental dans lequel vous pouvez aller voir, qui vous explique du coup toutes les régulations RSE auxquelles vous êtes soumises, pour voir si tout va bien. Ah, mais il y a aussi des opportunités, bah oui, c'est parce que sinon ça serait pas drôle, et en plus, c'est quand même vachement plus sympa d'essayer de parler des opportunités et des choses que ça apporte quand même de faire son bilan environnemental. Au-delà du fait que c'est quand même nécessaire et qu'à un moment donné, on va venir vous embêter pour le faire, il y a quand même des bénéfices. Que ce soit pour des questions de financement, surtout en ce moment, c'est en train de devenir vraiment un facteur qui facilite l'accès. Alors parfois, c'est même nécessaire pour avoir accès à certains financements, mais surtout, maintenant, ça devient un avantage dans certains dossiers, notamment auprès d'Europe Creative Media. Il y a une section maintenant Sustainability. Auprès des banques et auprès des appels à projets, moi j'ai de plus en plus de clients qui me disent « Ouais, moi j'avais besoin de faire mon bilan parce qu'il y a un appel à projet, parce qu'il y a une banque qui m'a proposé un taux d'intérêt intéressant, etc. » Donc il y a vraiment des vraies discussions à avoir aujourd'hui auprès de ces financeurs. Et ne serait-ce qu'en France, aujourd'hui, bah, vous devriez être au courant si vous êtes un studio, mais si vous ne l'êtes pas, je vous l'explique. Globalement, la grande colonne vertébrale financière de la France, le fonds d'aide à la production du FHJV, maintenant, demande d'avoir fait son bilan carbone prévisionnel et définitif au moment du sol pour pouvoir prétendre à l'aide à la production. Donc ça s'est implémenté dans les autres ICC depuis quelques années, c'est arrivé en 2025 pour le jeu vidéo et donc bon, c'est quand même important d'être au courant. et du coup, il faut utiliser Giros. Bon voilà, mais ça c'est pas grave, ça c'est optionnel, sinon vous n'aurez pas le choix, il n'y a que nous. Et alors, quand même, c'est important, est-ce que les joueurs s'en préoccupent ? Eh ben oui, il y a un moment donné, les joueurs se sont quand même dit qu'à un moment donné, le réchauffement climatique, c'était important, donc il y avait les 3/4 qui se disent que ça leur tient à cœur, mais surtout, il y en a plus de la moitié qui se disent qu'il va falloir agir, que les studios doivent agir, que les studios doivent réduire leur propre impact. Et plus particulièrement, et ça c'est plus récent comme tendance, on est en train de revenir à une tendance où les joueurs veulent avoir des modes d'économie d'énergie. Pourquoi ? Parce qu'il y a les Switch, parce qu'il y a les Steam Deck, parce qu'il y a les mobiles, parce que soudainement on est tous en train de rejouer sur des équipements qui ont de la batterie, que la batterie, bah, ça dure une vie, que la batterie, moins tu la recharges, plus elles durent longtemps. Donc vraiment, on commence vraiment à se préoccuper de combien d'énergie consomment mes équipements. Et je ne vous parle même pas des problèmes de RAM. Et alors, du coup, on a des gens très intelligents qui ont fait un petit peu des espèces de toolkit, de framework, un petit peu, je dirais, pour parler un peu des différentes actions que peuvent conduire les studios. Il y a un mec, Arnaud Fayol, que vous connaissez peut-être d'Ubisoft, qui a créé ce qu'on appelle le Climate Gate Toolkit, qu'il a présenté au GameCamp, qu'il a présenté plusieurs fois, donc je ne vais pas vous le refaire, mais globalement, il sépare en fait les quatre choses, ou les quatre, on va dire, piliers d'action des studios en quatre éléments. Donc globalement, il parle de l'esthétisme. Je ne vais pas en parler beaucoup parce que vous en avez parlé aussi beaucoup pendant la journée. Au niveau de la narration, au niveau du gameplay et au niveau de la politique de l'éditeur, parce que c'est la technologie globalement. Donc l'esthétisme, c'est quand on intègre des éléments visuels qui montrent un futur souhaitable. La narration, pas pareil, c'est quand on fait vivre des expériences et des idées à travers ces personnages, à travers la narration environnementale, on montre soit les conséquences du changement climatique, soit même carrément le monde d'après, finalement, qu'on aimerait voir. En termes de gameplay, c'est quand la boucle de gameplay elle-même intègre des éléments où il faut penser à gérer ses ressources, mais avec une vraie réflexion environnementale derrière. Et enfin, la politique de l'éditeur, c'est tout ce qui est technologie. Donc, moi, c'est un petit peu plus mon cœur de métier, donc c'est ce dont je vais vous parler là un petit peu plus, parce que côté Giros, nous, c'est vraiment là-dessus qu'on se concentre, parce que c'est aussi là-dessus qu'on veut mesurer, bien sûr. Parce qu'on a des data points, quoi. L'esthétisme, c'est compliqué de mesurer l'impact que tu as sur ta communauté avec ton jeu. Mais ça a été réutilisé, ça commence à être visible par les joueurs. On a Games Planet, vous allez avoir Pierre Forest cet après-midi, qui vient de Games Planet pour vous parler de ça, donc je ne vais pas en parler trop, mais par contre ça devient super intéressant parce que sur les pages de leur vente de jeux, donc Games Planet qui est une plateforme de distribution qui fait un peu concurrence à Steam, tout en livrant des clés Steam, mais qui donne du coup des éco-tags pour les jeux, donc parmi ces quatre dimensions dont on a parlé, et qui ensuite donne toute une description pour expliquer pourquoi est-ce que ce jeu il a obtenu ces éco-tags, quelle est la technologie qu'ils ont mis en place, par quelle forme d'esthétisme est-ce qu'il met en avant la transition environnementale. Donc ça commence vraiment à devenir une réalité, et sans pouvoir dévoiler quoi que ce soit, je peux quand même vous dire que c'est pas les seuls. Enfin, on a ce genre de discussion avec d'autres plateformes aussi, d'autres peut-être futures plateformes, donc ça commence à devenir vraiment une vraie réalité. Et je sais, je peux probablement vous dire, vous gardez un truc, mais en avant, je sais que Microsoft est aussi en train de l'envisager aussi pour leur store, notamment pour montrer les jeux qui vont avoir des éco-modes, des modes d'économie d'énergie, rapport à la batterie dont on parlait tout à l'heure. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Alors, moi, évidemment, je prêche pour ma paroisse, je ne vais pas vous en parler trop longtemps, mais moi, je vais toujours vous dire, commencez par faire un bilan, parce que ça aide à établir la base, à savoir où est-ce qu'on se situe, à savoir où est-ce qu'on a les facteurs d'impact, les facteurs d'émission les plus conséquents, et ça permet de se concentrer sur les trucs qui sont vraiment importants. Je ne vais pas vous le dire, je n'ai pas besoin de vous le réexpliquer, mais mettre son argent là où ça compte, c'est mieux. Et nous, on donne un bilan sur le gaz à effet de serre, mais aussi sur l'énergie primaire, les ressources abiotiques et les ressources en eau, parce que c'est ce qu'on estime qui a le plus d'impact. En tant que service numérique, en tant que produit numérique, c'est vraiment là qu'on a aussi de l'impact. C'est pas que le CO2, le CO2 c'est bien, mais il y a toutes les autres limites planétaires auxquelles il va falloir quand même qu'on réfléchisse un petit peu. Et alors, maintenant, j'arrête un petit peu avec les leçons, on va passer directement à un quiz bidirection, vous n'avez même pas la leçon. C'est vous qui allez faire la leçon, sur les pistes d'action qu'on peut faire au niveau de son studio. Alors attention, nous vraiment, ça c'est une logique qu'on a sur Giros, on fait vraiment la différence entre l'utilisation des jeux et la production des jeux et l'utilisation des jeux. Parce que c'est des cycles de vie, c'est tellement différent à calculer, c'est différent, ça dépend de où est-ce que vous vendez votre jeu, de ce que vous faites. Donc vraiment, on sépare les deux. Donc il y a d'abord tout le truc que vous pouvez faire au niveau de votre bâtiment, au niveau de vos studios, et ensuite, on parlera, donc on n'en parle pas pour l'instant, et ensuite, on parlera des choses que vous pouvez faire au niveau du jeu, ok? Donc, au niveau du studio, alors, je suis ramenée avec une petite clé Steam à gagner en disant, bon, j'ai besoin d'engager mon audience, bon, là, on n'est pas très nombreux, mais c'est pas grave. Je ne vais pas m'amuser à compter les points, je vais faire simple, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez répondu correctement à une question, je vous inscris. Vous pouvez vous inscrire et puis je ferai un petit tirage au sort et puis on le fera tout simple. Parce que je ne veux pas m'embêter à ce qu'il y ait quelqu'un qui dit « Oui, moi j'ai eu deux points. » Donc, on fait simple, mais ça, du coup, c'est un studio que j'ai rencontré pendant un événement de Playing for the Planet, donc un de nos partenaires internationaux qui a créé un jeu. Ça fait, ils sont en production depuis plus d'une dizaine d'années sur leur jeu, qui est vraiment orienté sur la gestion des ressources, la création, voilà, la gestion d'une planète, un jeu de gestion, mais vraiment orienté éco-conception, éco-réflexion et gestion des ressources. Je trouve que voilà, ils ont été suffisamment gentils pour nous fournir des clés pour ce genre de trucs pour les étudiants. Ils essaient beaucoup le vendre, de le filer aux écoles aussi gratuitement. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire au tirage au sort et puis pour gagner une clé. Mais passons aux choses sérieuses. Donc, j'ai des petits. Alors, attends, il faut que je sorte de mon truc là parce que ça marche pas. Donc, on fait à l'artisanal. Hein, hop. J'ai plusieurs actions, une quinzaine d'actions qui sont extraites de notre éco-guide du jeu vidéo qui est fait édité par Géros. Donc vous avez toutes les infos après pour aller voir qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi, l'importance du truc et tout. Mais à votre avis, donc je ne sais pas si vous arrivez à lire bien les catégories, j'en ai 4 sur les bâtiments, 2 sur le matériel, 4 sur l'énergie, 2 sur les achats, 1 sur les transports, 1 sur les déchets. On est globalement sur une échelle de plus important au moins important, à peu près. C'est à vous maintenant. Qu'est-ce qu'on peut faire, à votre avis, au niveau de son studio? Ça, c'est valable pour tout le monde. Hein. C'est que ce soit un studio de jeux vidéo, entreprise, boulangerie, on est sur les mêmes actions, à peu près. Peut-être pas la boulangerie. Peut-être la banque, ou je sais pas. Ah, j'ai pas beaucoup de candidats.
Non, je crois que la rénovation énergétique.
Carrément. Ouais, tout à fait, la rénovation. Et alors, en plus, excusez-moi, parce que je ne sais plus exactement où est-ce que j'ai mis, mais tout à fait. La rénovation, c'est une des actions les plus simples. C'est tout simple, mais absolument. Ouais. Carrément.
Baisser ou changer son mode de chauffage?
Oui, tout à fait. Alors, tu m'as dit quoi? Baisser le chauffage?
Ou changer le.
Changer le mode de chauffage. Alors, oui, alors soyons un tout petit peu plus précis à la limite. Est-ce que tu connais des modes de chauffage un peu. Mieux.
Je fais des règles annulées.
Tout à fait. Ça fait partie des trucs qu'on peut faire dans un studio. C'est important.
Ne pas aller à Gamescom tous les ans.
Mais effectivement, t'as raison. Nous, on dit au studio, d'ailleurs, on l'a dit en tips là récemment, envoyez moins de personnes à la Gamescom. Mais alors, si tu veux le dire de façon un petit peu plus simple, il y a plusieurs façons d'envoyer les gens à la Gamescom. Et alors, est-ce que peut-être tu... Non mais, la partie en fait la plus impactante d'aller à la Gamescom, c'est surtout le transport.
Le train.
Exactement, c'est ça. C'est au lieu d'aller en... Déjà, c'est au lieu d'envoyer en avion, t'envoies tes gens en train, peux réduire.
Oui.
C'est pas simple d'accès, Pologne. T'en as beaucoup.
On en parlait hier, et par exemple, là, depuis Montpellier, presque 12 heures de train, en fait, avec tous les arrêts que tu fais, parce que tu remontes jusque Paris, puis ensuite, tu tapes toute l'Allemagne pour aller jusqu'à Cologne. C'est long.
C'est très long.
Mais
t'as raison, du coup, envoyer moins de gens à la ZDC, c'est un vrai truc aussi. Tout à fait. Finalement, t'as peut-être pas besoin, en fait. Faut rationaliser. Et franchement, quand nous, on fait les analyses de studios, notamment les petits studios, c'est parfois, c'est presque plus que 50% de leur impact, en fait, en fonction du nombre de gens. S'ils envoient toute leur équipe à la GDC, et qu'ils n'ont pas beaucoup vendu, finalement, il y a peu d'impact de l'utilisation, beaucoup d'impact de la production, et bam. Donc, oui, petit studio, mais quand même attention, parce que parfois, on peut quand même avoir un impact, tout à fait. Et pour le coup, pour les transports, le moyen de transport moins carboné, pour le coup. Alors, il y a ça, il y a aussi le fait de accepter le télétravail pour les équipes, encourager les moyens de mobilité. Moi, je vois des boîtes qui financent un petit peu plus les passes transport que ce que demande la loi. Voilà, tout ça, c'est des petits trucs pour encourager.
Pourtant, on a un vrai retour en arrière sur le télétravail, par exemple.
Ça dépend des industries, ça dépend des... Mais oui, tout à fait. Et c'est pour ça que moi, je le réinsiste.
Vous voulez pas que leurs employés à revenir
en 100%. C'est bien pour votre empreinte carbone.
Pour l'inclusion aussi, parce que ça permet aussi à des personnes qui sont
en train de se déplacer. Autre, alors, il m'en reste. Dans les bâtiments, dans le matériel, dans l'énergie. Ouais.
Éteindre les ordinateurs avant de partir.
Ouais, alors tu sais quoi, je ne l'ai même pas. Parce que c'est...
Ok.
C'est tout petit. Ouais, ça reste. C'est un truc, mais c'est tout petit. Ouais.
Parce que comme ils font les billes de la nuit et tout, on peut dire.
Écoute, je revérifierai, mais nous on l'a pas mis dans les trucs les plus importants, mais on le fait quand même au bureau, donc je vérifierai quand même le collègue, mais...
Mettre des LED.
Alors écoute, moi je l'ai pas. Je l'ai pas, mais... J'en ai d'autres sur l'énergie qui sont peut-être un tout petit peu plus...
Tout ce qui est parc informatique.
Ouais, ouais, quoi,
particulier. On sait en fait quelle techno on veut utiliser.
Oui.
Vraiment la RAM, la composition du PC, etc.
Tout à fait, adapter le matériel à l'usage, parce que tes admins, ils n'ont pas besoin de machines de guerre. Tout à fait. Yep, très bon point. Et alors, du coup, j'en ai un peu même sur le matériel, parce que vous avez demandé. C'est assez instinctif. Hein. Mais globalement, tu as ton matériel, vous utilisez beaucoup de matériel en studio, beaucoup de matériel technologique.
Les serveurs.
Alors, ouais, les serveurs, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on fait avec les serveurs?
On les utilise pas bien, il y en a trop, ça consomme beaucoup.
Ouais, et on les choisit surtout. Parce qu'il y a des hébergeurs qui sont un peu plus éco-responsables que les autres. Déjà, ça dépend où est-ce qu'ils sont basés. Si j'utilise de l'énergie française, en général, c'est un mix énergétique qui est plus décarboné que le reste. T'en as qui sont un petit peu plus engagés que les autres. Donc, ils ont des PUE. Alors, je sais plus. Ça y est, j'ai oublié. Donc, ignorez-moi. Mais du coup, c'est les meilleurs power, usage, efficiency. Voilà, c'est ça. C'est globalement, ils ont en fait en fonction de la quantité de chaleur et d'énergie qu'ils utilisent versus ce qu'ils produisent en fait. Et donc, tu en as des plus optimaux que d'autres. Donc, c'est idéal. Non, il faut utiliser ceux avec les PUE les plus bas. Oui. Alors, on a pas du matériel, du coup, je vais peut-être avancer un petit peu au cas où. Voilà. Sur le matériel, j'ai dû reconditionner. Parce que en fait tout le monde rachète du nouveau, c'est plus simple, c'est machin, mais en fait
Financements, des fois quand on rachète du matériel déjà utilisé, on n'obtient pas les financements qui vont les crédits d'impôt qui
d'accord.
Des banques parce que justement c'est du matériel réutilisé.
Je ne savais pas, ça c'est super. Génial. D'accord, bah écoute, merci, je le note. Je regarderai quand même du coup les conditions exactes. Putain, c'est con.
Après, c'est en 2020, donc j'espère que ça
change
d'ici là.
Ouais.
Parce que pour les déchets, c'est juste le tri sélectif dans la boîte ou quoi?
Tout à fait. Alors, oui, tout à fait. Recycler ces déchets. Tout à fait. Parce que, mais alors, pourquoi je le mets? Pourquoi on le met? Parce que les déchets électroniques, il y en a énormément dans les studios. Franchement, moi, tous les studios qui sont passés chez Giros, ils m'ont dit ah, attends, j'ai trouvé des trucs dans les placards, des vieux trucs qu'on avait là depuis des années. Donc, faire son bilan, ça permet de réaliser aussi qu'on a des petits problèmes dans ce côté-là. Bon, j'avance, mais du coup, on a parlé d'autres manières d'énergie. Sur ces bâtiments, il y a les panneaux photovoltaïques aussi, hein, bien sûr. Ça, c'est important aussi parce que ça fait partie des trucs qui ont le plus d'impact. Sur l'énergie, on a aussi se raccorder au réseau de chaleur et de pompe et de froid urbain. C'est pas très instinctif, on le sait pas toujours, mais il y a des îles du coup qui proposent justement des réseaux de chaleur et de froid urbain. Et donc, c'est plus intéressant en général que se chauffer soi-même. Et on a parlé du chauffage, réduire la température. Déjà, de la clim, du chauffage, tu réduis d'un degré, tu fais venir les gens en pull. C'est une amélioration, franchement, qui fonctionne bien. Sur les bâtiments isolés, on a parlé de rénovation, mais du coup, il y a beaucoup aussi de locaux qui sont aujourd'hui pas aux normes en termes d'isolation. Et donc, ça, vraiment, sur la facture à long terme, ça fait une énorme différence. Tu as parlé du matériel à l'usage, c'est un peu la même chose pour les bâtiments. En fait, tu peux déjà te poser la question, mais est-ce que mes bâtiments, est-ce que mon local, il est à la bonne taille par rapport à mes employeurs? Ça dépend, c'est plus valable pour les très gros. Hein. Mais parfois, tu as des salles complètement inutilisées. Bon, ça ne sert à rien. Limite, tu le sous-loues à quelqu'un d'autre. Tu vois, tu te débrouilles pour faire en sorte que tu adaptes vraiment à la taille. Et enfin, sur les bâtiments, ça aussi, c'est un petit peu con. Mais on se dit, si tu fais attention à faire des locaux qui sont à côté des transports en commun, tu évites que les gens viennent en bagnole tous les jours. Voilà. Et enfin, sur les achats, on parle d'optimiser ces campagnes marketing, parce que ça, c'est un autre aspect sur lequel, finalement, les studios, les petits studios, même, ils ont un impact. Parce que vous faites des campagnes marketing, vous avez des streamers qui parlent de vous, ça a un impact aussi. Donc, quelque part, essayer d'optimiser, de faire en sorte qu'ils utilisent peut-être des assets un peu moins conséquents, qu'ils présentent peut-être que la vidéo ne soit peut-être pas en 4K s'il n'y a pas besoin que ce soit du 4K, etc. Ça, c'est des petites choses qu'on peut faire. Comme je disais, donc on a tout ça dans l'éco-guide du jeu vidéo. Je ne vais pas vous en parler plus, mais il y a plus de fiches que ça. Ça vous explique pourquoi est-ce que j'en ai mis une certaine et pourquoi je n'en ai pas mis d'autres, parce que globalement, on met les celles avec les plus importantes. Puis surtout, vous avez des liens vers des outils, vers des entreprises qui peuvent peut-être proposer les solutions. Maintenant, on passe sur la dernière partie qui est les sources d'impact du jeu vidéo. Donc là, c'est vraiment le jeu quand il est en exercice. Nous, on donne des chiffres par heure de jeu. Pourquoi ? Parce que le but, c'est pas que vous fassiez moins de jeux, c'est pas que vous fassiez des plus petits jeux, c'est juste que vous fassiez, enfin, si des plus petits jeux, mais en termes d'assets, c'est pas de faire moins de jeux. Nous, on est, du coup, tu disais, oui, c'est un impact environnemental, mais moi, j'aime bien dire, oui, mais on compare une heure de jeu à une heure de ski, par exemple. Et là, tout de suite, bizarrement, la perspective, elle est plus sympa. Donc, notre objectif, c'est pas de dire, bon, bah, on fait moins de jeux, notre objectif, c'est juste de dire, on va faire des jeux mieux. Et du coup, pour ça, il faut comprendre un petit peu d'où vient l'impact du jeu vidéo, ça aide. Et donc, on sait que ça vient en partie des équipements utilisateurs, donc grosse partie des équipements utilisateurs, ça vient des data centers et ça vient des réseaux. Et donc, ça veut dire qu'il y a quand même des choses que les studios peuvent faire pour changer et pour améliorer cet impact, que ce soit sur les équipements utilisés, que ce soit sur le mode de distribution du jeu. Par exemple, et là je vous le donne vraiment, mais alors là c'est le résumé, ultra résumé, mais... Sur la fabrication, on peut encourager les composants anciens, arrêter la course à la performance. Sur la distribution, on peut optimiser la taille de ses jeux et de ses balles, on en a parlé tout à l'heure, donc je ne vais pas en parler trop. Et sur l'utilisation, c'est vraiment sur l'optimisation de la consommation énergétique du jeu pendant qu'il tourne, dès qu'on peut, où qu'on peut, comment qu'on peut. Okay. Et direct, nouveau quiz, pareil, parce que j'ai pas le temps de faire les leçons, donc vous faites les leçons vous-même. L'idée, c'est ici que on va le faire un peu en mode blind test, slash entre Julien Lepers et... je vais essayer de sortir mon Julien Lepers intérieur, mais on va voir si déjà ça fonctionne pas avec les images. Globalement, je vais vous demander d'une part de reconnaître le jeu, et ensuite, deuxième partie de question, de reconnaître l'écotag associé, donc le 4, vous avez technologie, esthétisme, gameplay ou narration, et pourquoi surtout, qu'est-ce qui est l'action illustrée par l'image. Peut-être que vous connaissez les cas d'usage, peut-être que vous les connaissez pas, on verra bien. Merde, j'ai laissé les sources, j'espère que vous les voyez pas. Ne lisez pas ça en dessous, s'il vous plaît.
C'est trop petit.
Et en plus, c'est trop petit et c'est pas la bonne source. C'est génial, qu'est-ce que j'ai fait? C'est génial, j'adore parce que je l'ai testé 3 fois en plus. Alors, vous connaissez pas, c'est dommage. C'est un jeu qui met en avant un petit peu des éléments esthétiques d'un futur plus ou moins désirable. C'est un gros jeu créé par... Alors attendez, ça y est, je sors mon Julien Lepers. Hop ! Un jeu d'action-aventure et d'infiltration sorti en 2020 dans lequel le joueur incarne un membre de la résistance.
Watch Dogs.
Hein ? Ouais ! C'est celui-là. Tout à fait, c'est Watch Dogs, absolument.
C'est Watch Dogs.
Ouais. Absolument. Et alors du coup, Watch Dogs, ils mettent des panneaux solaires, ils mettent des voies des véhicules électriques. Il n'y a plus grand chose de plus, mais il y a quand même un regard critique sur plusieurs sujets de société, notamment sur le numérique, sur les risques. Et il fait évoluer le joueur dans une ville qui a tenté quand même plusieurs trucs en fait pour se transitionner. Donc on est sur quel tag à votre avis?
Sur du récit.
Sur du récit, ouais, ça, c'est vrai. C'est vrai, ça, on n'est pas sur l'écologie, du coup, pas sur l'écologie dans le récit, on est plus sur les risques du numérique, mais... Nous, on le met en esthétisme parce qu'on est vraiment sur la couche légère, la couche la plus légère que tu puisses avoir quelque part, parce que tu montes des panneaux solaires, tu montes des trucs, c'est super, mais... Il n'y a pas de... Alors après, j'y ai pas vu, donc ça se trouve, il y a des petits éléments, mais il me semble pas qu'il y a des éléments où on vraiment te dit c'est la merde, l'écologie, c'est l'enfer, voilà. Donc c'est vraiment, il y a juste de l'esthétisme, mais bon. C'est comme, il y avait des éoliennes dans Pokémon Platine à l'époque, en 2017.
Ah oui, c'est vrai.
Ouais. Donc quand on parle de transformation des consciences, c'est que ça joue un rôle quand même, parce que ça montre aux gens qu'en fait, les éoliennes, c'est pas si moche, que les panneaux solaires, c'est normal. Et puis finalement, quand tout le monde a des panneaux solaires, on arrête de râler contre les panneaux solaires. Deuxième jeu. C'est un jeu qui a réussi à sauvegarder justement l'énergie de 14 éoliennes annuelles, de façon annuelle. Donc c'est évidemment un gros jeu. ce que vous en avez peut-être entendu parler, ils ont sorti un cas d'usage assez, assez détaillé. Donc on parle... Peut-être j'y vais doucement parce que je sais que ça va... Hein ? Voilà, bim ! Je montre l'interface, on reconnaît Fortnite. Effectivement. Donc, en fait, dans Fortnite, ils ont mis en place des techniques plutôt simples pour optimiser l'énergie. Est-ce que vous savez quoi ?
Faire des concerts virtuels.
Alors, c'est pas bête. J'avoue, j'y avais pas pensé, mais c'est une idée, effectivement, pour éviter aux gens de se déplacer. C'est vrai qu'ils ont fait ça. Mais alors, surtout, ils ont fait plein de trucs qui sont complètement invisibles pour la part des joueurs, c'est-à-dire qu'ils ont optimisé leur menu et leur temps de pause. C'est-à-dire que dans les menus, les lobbies, là, les moments où les joueurs ils sont juste en train de se battre, mais il ne se passe rien, ils ont réduit les frame rates, ils ont réduit la résolution, ils ont réduit les performances, parce que ça ne sert à rien, tout le monde s'en fiche. Et pareil dans les menus. Et du coup, juste en faisant ça, vraiment, ils ont juste réduit les performances pendant les phases de pause, les lobbies, les menus, ils ont réduit 14 éoliennes sur une année. Alors évidemment, c'est Fortnite, hein. Mais quand même, ça fait quand même un peu réfléchir. Du coup, pardon, bon, j'avance, mais bon, vous vous en doutez. Du coup, sur l'éco-tag, à votre avis ?
La
technologie. Voilà, bon, ok, ça sera bien, merci. Bon, je me dis, on ne sait jamais, ils l'ont peut-être pas vu, tu vois. Oui, mais oui, c'est ça. C'est vraiment sur la technologie, parce que c'est un truc qui n'est pas vu par le joueur, qui n'y a pas dans le gameplay. C'est vraiment juste un truc qu'ils ont mis derrière, et pouf, ça réduit l'énergie.
C'est ça.
Alors, hop, qu'est-ce qui s'est passé là ? Quel jeu ? Hop, merde. Faut vraiment que je fasse... Ok, je m'arrête là pour une seconde. Ça va pas être très long, si vous n'allez pas reconnaître, quoi.
Il y a déjà...
Ah, oui, bravo ! Félicitations, tout à fait. C'est exactement ça. Et alors, qu'est-ce qui se passe chez Halo ? Est-ce que tu sais à peu près... est-ce que vous savez un peu ce qu'a fait Halo au niveau de performance ? Non ?
Sur le dernier, sur Infinite ?
Sur Infinite, ouais. Là, on parle d'Halo Infinite, tout à fait. Et alors, là, le premier truc qui se passait, c'est qu'en fait, au moment de la pause, tout devient noir, le rendu s'arrête. On arrête le rendu du monde pendant les menus de pause, parce qu'en fait, ça sert à rien, effectivement, et les joueurs s'en foutent complètement. Et deuxième truc qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis en place de la 2,5D dans leur menu, c'est-à-dire qu'avant, ils avaient les modèles en 3D et les fonds aussi en 3D, et en fait, ça sert à rien. Du coup, ils ont mis en place des modèles en 3D et les fonds en 2D. Alors, il y a un peu de travail à faire au niveau des lighting et des shadows, mais globalement, ça fonctionne très bien, les joueurs ne s'en aperçoivent pas et ça permet de réduire, finalement, la consommation énergétique sans que le joueur s'en aperçoive. Du coup, on est sur quelle techno ? Bon, voilà, mais du coup, on est sur de la technologie, pareil, un truc que le joueur ne voit pas, qui n'impacte pas l'expérience du joueur et qui permet de s'améliorer. Autre jeu, alors celui-ci, est-ce que vous allez reconnaître avec l'interface ?
Apex.
Hein ?
Non.
Non, c'est pas Apex. Ah. Mais effectivement, il s'agit d'un jeu de tir à la première personne, dont le thème principal est la guerre.
C'est pas
Rainbow ? Eh ouais, tout à fait. Tout à fait. Alors, d'ailleurs, ils l'ont fait, Call of Duty, ils l'ont fait sur plusieurs trucs. Ils l'ont fait sur plusieurs jeux, mais globalement, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Déjà, ils ont mis en place... Ils ont proposé les éco-modes aux joueurs, et notamment l'éco-mode, il fait quoi ? Finalement, il change la qualité du rendering pendant les menus, dans les menus et les pauses, pareil, comme on a dit tout à l'heure. Et finalement, ils réalisent que ça a assez peu d'impact. Et en fait, ça paraît un peu con, mais on passe beaucoup de temps dans les FPS multijoueurs, dans les menus, en fait. Hein. On attend son pote, on regarde le menu, on va faire du crafting, on sait pas quoi, et en fait, on y passe énormément de temps. Et donc, tout ce qu'on peut faire pour optimiser ça, ça aide. Du coup, c'est une... Ouais. Bon. Et alors, là j'ai un autre jeu qui est intéressant parce que, à mon avis, vous n'allez pas le connaître.
Ultros.
Mais bon, je le mets, on ne sait jamais.
Ultra aussi.
Ah ah, bravo, super, j'adore. Hein, génial, je suis presque un gagnant. Et alors, effectivement, c'est Ultros. Et alors, Ultros, ils ont fait un truc intéressant, c'est-à-dire que là, vous voyez, c'est une barre qui bouge, en fait, c'est une barre graphique, qui change en fonction des options graphiques que vous choisissez, qui vous donne une indication de la consommation énergétique estimée. Hein. Il ne vous dit pas de chiffres, il ne s'engage pas sur autre chose. Par contre, en fonction de si tu choisis la résolution en 4K avec le maximum de framerate, etc., etc., ta barre elle est tout en haut. Puis si tu choisis un peu des options un peu moins consommatrices, la barre elle descend. Et ça, c'est vraiment un truc que je n'ai pas vu beaucoup dans d'autres jeux. Tu impliques ton joueur dans la prise de décision, tu lui montres les conséquences de sa décision, et c'est pas très compliqué à mettre en place, surtout si tu le fais juste en termes d'estimation. Ils l'ont fait simplement. Alors, il y a tout un cas d'usage. Hein. Je vous mets la source derrière, mais globalement, ils l'ont fait avec un wattmètre dans leur salon. Enfin, voilà. Ils ont fait ça tout simplement. Donc, bon, je vous pose pas, je vous fais pas l'insulte de vous demander quel est le code taxé. mais ouais, bravo pour avoir trouvé le truc. Alors, là, j'en ai un dernier, mais alors, franchement, si vous le trouvez celui-là, je serais très, très, très impressionnée. Je l'ai mis en bonus. C'est un jeu qui n'est pas encore sorti.
C'est joli.
Ouais. Et qui, alors, quelque part, propose des options un peu intéressantes parce qu'il intègre vraiment la narration, enfin, le concept de la gestion de l'énergie dans le gameplay. Donc, c'est un jeu d'aventure dans lequel le joueur incarne un astéroïde qui est en mission de reconnaissance dans une planète inconnue. Et l'une des mécaniques principales, en fait, ça repose vraiment sur la gestion de l'énergie du robot qui va, du coup, le jeu vous permet d'activer les commodes. Et quand vous activez les commodes, les performances graphiques du jeu réduisent. Le robot a plus d'énergie, il peut aller plus loin. Et vous chopez des éco-points qui sont du coup une des monnaies secondaires du jeu. Et donc vraiment, t'intègres cette dimension de tu fais internaliser au joueur, c'est quoi l'impact finalement de tes performances énergétiques, comment est-ce que ça impacte mon gameplay, et tu l'intègres dans ton gameplay. Quoi. Donc moi, je trouve ça génial, il n'est pas paru encore le jeu, j'espère vraiment qu'il va paraître. Et alors là, bon, bah, l'éco-tag, à votre avis. Ouais, tout à fait. Moi, je le mets même en gameplay technologie, parce que c'est clairement, voilà, c'est un truc, pour le coup, qui impacte l'expérience du joueur, mais il l'implique tellement dans la décision, donc on est vraiment sur une logique de opt-in versus ça. Alors, j'accélère, parce que je suis complètement à la fin, mais on a fini les bonus, bravo à tous. On a fini les jeux. Mais globalement, si je résume tout ça, tout ce que je viens de vous dire là, réduire l'impact de la fabrication, c'est possible. On réduit les MSR, on permet aux joueurs de jouer sur des plus vieilles machines, on permet aux joueurs de jouer sur des patates. Qu'est-ce qui se passe? On permet une augmentation finalement. Oui, on réduit sa consommation, oui, on réduit l'impact de son studio, mais surtout, on permet d'augmenter son marché cible. Il y a plus de gens qui peuvent jouer au jeu, parce qu'il y a des gens qui ont des patates. Et on réduit aussi les risques sur la chaîne d'approvisionnement en ce moment avec la RAM. Là, vous voyez, moi, de toute façon, moi, tous les potes gamers, ils sont tous entraînés, on garde nos machines jusqu'à la fin de nos jours. Donc j'espère que vous avez prévu des jeux qui tournent sur les machines des joueurs actuels. quand on réduit l'impact de sa distribution, alors c'est-à-dire qu'on utilise des modes de distribution moins impactants. À nouveau, je vous en ai pas parlé parce que ça va être un sujet pour cet après-midi, mais si vous utilisez par exemple le cloud versus le téléchargement, dans certains cas ça peut être plus intéressant. Si vous utilisez les hébergements éco-responsables dont je vous parlais tout à l'heure, si tu réduis la taille de ton jeu et de tes patchs, eh ben, tu fais plein de trucs bien, parce que tu réduis la taille du jeu sur les machines de tes employés et de tes joueuses. Fais en sorte que tu as moins de friction pour les téléchargements, parce que personne n'est à attendre 10 minutes pour un téléchargement. Donc finalement, si tu gagnes 10% ou 15% de temps sur ton téléchargement, c'est toujours ça. Tu as toujours un petit impact. Et puis, les joueurs, ils se préoccupent quand même de la taille du jeu sur leur machine. Alors, on s'entend, hein, toute chose égale par ailleurs, mais quand même. Et enfin, quand on veut parler de réduire l'impact de l'utilisation, ben là on a les framerates, la résolution, la luminosité, je vous ai donné plein d'exemples. On peut optimiser son code, alors mettre en place des arrêts logiques, c'est-à-dire que là je parle de, par exemple, je peux vous parler d'arrêter le rendering dans les menus, ben ça c'est assez simple. Tous les engines, que ce soit Unreal, Unity et Godot, ont des plugins qui permettent de détecter l'idle state. Donc ensuite, vous en faites ce que vous voulez. Une fois que vous dites qu'est-ce qui se passe quand mon joueur il est idle, vous dites si ça fait 30 secondes, 1 minute, 30 minutes, évidemment ça dépend, c'est un jeu de stratégie, ça peut être 10 minutes, mais dans tous les cas vous pouvez ensuite décider mais qu'est-ce qui se passe, et c'est assez simple à mettre en place avec les engines existants. Encourager la résolution sélective, on n'a peut-être pas besoin d'avoir du 4K partout, et les options des commodes, les joueurs qui commencent à le demander de plus en plus. Ça vous permet une meilleure stabilité du jeu en général. Globalement, tout le monde va vous dire mon jeu il tourne. Une fois, j'ai optimisé sur Switch. Les studios qui ont optimisé sur Switch vont vous dire j'ai rendu du coup le reste du jeu, il est beaucoup plus stable, il est beaucoup plus efficace. Ah, bah, là, c'est pareil. On réduit les factures un petit peu, les vôtres et puis celles des utilisateurs. On réduit le bruit et la chaleur émis par les équipements, bah, oui, parce que c'est de la déperdition. Du coup, ça fait. Le bruit et la chaleur, là, les joueurs commencent à se dire ça tourne beaucoup quand même, j'aime pas trop. Tu vois. Donc, et du coup, à terme, quand on réduit le bruit, la chaleur, le nombre de charges dans la batterie, ben, on augmente la durée de vie des équipements. Les joueurs, ils ont envie d'avoir des équipements qui durent plus longtemps, même s'ils ne s'en rendent pas toujours forcément compte. Mais là, on commence vraiment à voir qu'avec les questions sur la batterie, ça devient de plus en plus, en fait, de plus en plus dans la tête des joueurs, quoi. Voilà, donc j'ai terminé. Mais si vous devez retenir que 4 trucs, c'est clair, Les sciences, c'est clair, il n'y a pas de doute, il va falloir qu'on fasse des trucs, ok? Et ça nous coûte de l'argent de ne pas faire des trucs, mais ça nous rapporte de l'argent de faire des trucs. Super. Et ce serait quand même vachement dommage de ne pas utiliser les jeux comme le vecteur de changement que ça peut être, que ce soit pour transformer les consciences, que ce soit pour faire prendre conscience juste de l'impact écologique, de juste allumer son ordinateur. Il y a plein de trucs qu'on peut faire de façon plus ou moins légère, de façon plus ou moins in your face. Je pense qu'on a des joueurs qui sont quand même globalement suffisamment maintenant éveillés à ce sujet-là pour que ça ne les offense pas si vous commencez à leur proposer des options, surtout si vous ne leur imposez rien. Voilà, chaque dixième de degré compte, let's go, on est parti. Alors je crois que j'ai dépassé... Ah, 36, ah ça va, j'ai rattrapé. Bon, pas beaucoup de temps pour les questions, peut-être. Oui.
Moi par exemple, j'ai une réflexion et un problème qui nous est arrivé un petit peu sur Carlos Roach, ça a été le côté... accessibilité versus, par exemple, je peux prendre un cas précis, c'est un peu les tailles du date, et notamment pour Switch, c'est un peu rigolo parce que c'est bien de sortir son jeu sur Switch parce que ça nous force à genre, avoir des updates de moins de 500 mégas et genre sinon il faut passer par plein de trucs pour dépasser et tout, c'est la galère, donc au moins c'est pas plus mal, ce qui fait que le jeu il est quand même assez léger. Mais par exemple, on s'est posé la question, on voudrait peut-être avoir du text-to-speech qui pourrait décrire des moments dans le jeu, des cinématiques, des choses comme ça, des menus, plein de choses. Et c'était assez technique d'avoir un moteur de text-to-speech intégré déjà dans le jeu, quoi, sur Unreal, c'est la galère, et, voilà, les solutions elles sont plus ou moins bancales, et pour les langues qu'on supporte, c'est galère. Et du coup, on s'est dit, on va le pré-générer pour avoir un truc bien. Bon, outre le coup de pré-générer plein de text-to-speech, en fait, ça fait c'est une taille un peu monstrueuse. Quoi. Et il n'y a pas de solution qui existe correcte pour genre, avoir un truc qui fonctionne et qui allie bien l'accessibilité et genre, ce truc de taille du date et de taille de. Voilà. Je sais pas, ça n'existe même pas je sais pas, un DLC text-to-speech, parce que limite on pourrait le donner que aux gens qui en ont besoin, tu vois.
Oui, tout à fait, ouais.
Il y a deux systèmes qui disent que tu vois, je crois pas, ou alors peut-être que j'ai une
plus. Je sais que Xbox, ils proposent des options genre de Dynamic Power User, genre je sais plus qui c'est qui faisait ça, je sais plus dans quel cas d'usage je vais le retrouver, mais je sais qu'il y a des boîtes qui font du coup des packages adaptés en fonction de quel joueur t'as, de la machine, de la config, etc. Et franchement, ton idée de DLC optionnelle, elle est pas bête, parce que... proposer, du coup, pas donner toutes les mises à jour. Alors, je ne l'ai pas mis dans les exemples parce que, bon, après ça commence à faire beaucoup, mais clairement, pas tout envoyer au joueur, mais plutôt lui envoyer en fonction de ce qu'il a, de la machine, de ses besoins, de la machine qu'il utilise, parce que ça, pour le coup, c'est EA aussi qui l'a fait. Ils ont développé une technologie pour pré-calculer la taille des patchs en fonction des fichiers d'installation qui sont déjà sur la machine et de la langue utilisée par le joueur. En disant, si t'es un joueur français, j'ai pas besoin de t'envoyer le package espagnol, tu vois. Donc, peut-être regarder comment est-ce qu'il l'a fait. Peut-être que ça peut donner des pistes sur comment tu peux le...
En tout cas, c'était un gros truc avec une solution technique pas claire. Et donc, en fait, on a juste pu laisser tomber, quoi, à fond, parce que...
Ouais, c'est sûr. Je comprends. C'est sûr, après, t'as ton choix à faire sur l'accessibilité. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, j'insiste aussi beaucoup quand même pour dire notre but, c'est pas que vous fassiez moins de jeux. Et c'est pour ça qu'on vous fait des calculs par heure de jeu. C'est-à-dire que si, quelque part, tu divises ton coût de production sur plus de joueurs, tu réduis ton impact par heure de jeu. Donc, quelque part, la dimension accessibilité versus impact environnemental, alors il faut le calculer, bien sûr. Hein, c'est ça. Ouais, c'est pour ça qu'il y a le gyros. Même si l'IA, on n'est pas encore. On n'a pas encore tout l'IA dedans parce que. Très attention. Du coup, ça te permet au moins de pouvoir voir est-ce que le fait d'avoir mis en place cette technologie sur ma taille du jeu versus le nombre de joueurs que j'ai, ça m'a permis de réduire ou d'augmenter un petit peu. Quoi. On pourrait faire des trucs de comparaison. Mais je pense que l'idée de donner des versions en fonction du joueur et de leurs besoins, c'est tout à fait partie des choses qu'on peut faire. Tout à fait.
Des trucs que je connais pas, ça m'intéresse.
Par contre, ça pose un autre problème en termes de surveillance. et de données.
Oui, mais alors en général, tu, du coup, t'autorises tes joueurs, du coup, tu demandes l'autorisation à tes joueurs de regarder la config qu'ils ont.
Certes, ouais. Mais du coup, tu poses des questions de...
Ah oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais comment dire, à partir du moment où tu te places dans la position de l'opt-in de versus l'opt-out, c'est un peu pareil pour les écomodes, tu vois. Enfin, on est de toute façon dans une logique où idéalement, tu n'essaies pas d'imposer trop de trucs à tes joueurs, tu leur donnes le choix, tu les informes surtout de ce que tu fais. De pourquoi tu le fais, sur, après, c'est, après de toute façon tu rentres dans le cadre de la GDP, enfin de la RGPD sur la gestion des données personnelles, les trucs comme ça, enfin je suis d'accord, mais moi j'ai l'impression que les joueurs ils sont globalement plutôt ok en général sur, pour le fait qu'on leur demande quelle config ils ont, ils ont l'habitude avec
ils
Steam
ils sont plutôt ok parce qu'ils sont pas conscients de ce que ça implique.
Bon, peut-être, ouais, je veux dire, c'est sûr.
Après sur la partie accessibilité pure, il y a des outils qui existent mais ça reste du bricolage parce que la plupart de l'industrie du jeu vidéo, en fait, connaît pas ces outils et pendant très longtemps a mis complètement de côté ou parce que les personnes étaient directement concernées, etc. Enfin, c'est l'histoire de l'accessibilité dans le jeu. Mais globalement, ce qui manque surtout, c'est une démocratisation et une compatibilité entre les outils. Parce que même si y en a plein qui existent, il y en a beaucoup de ces outils qui sont encore, même encore maintenant, considérés comme des outils de triche, donc les logiciels les bloquent, etc., etc. Et il y a une incompatibilité technique. Technologique. Et du coup, ça demande quand même du temps de dev de se dire ok, je peux quand même reprendre cet outil, l'adapter, l'intégrer ou pas, en faire un module, etc. Et bypasser en fait ces problématiques un peu légales, enfin, j'ai pas les termes, tu vois, pour comment est-ce que ça peut marcher ensemble.
Il y a plein de textliners ou de choses comme ça qui existent, qui peuvent en plus même s'injecter dans des programmes et tout, mais ça marche bien sur Windows par exemple, mais on peut utiliser textliner dans Windows, mais pas genre. Un peu cross-platform, ben
c'est plus complexe.
C'est trop chiant quoi. Ouais. Enfin, et effectivement, la moitié de notre user base limite elle est sur Switch. Donc,
ouais.
Pourquoi enfin, c'est dommage de faire des features d'activité qui sont pas genre pour tout.
Ouais. C'est sûr, c'est dommage. Si t'arrives pas à atteindre ton audience, et après il faut que tu vois tes priorités, c'est sûr. Parce que l'écologie, ça peut pas être ta première priorité parce qu'il faut survivre d'abord, mais.
Oui. Moi j'avais une question sur comment convaincre.
Ouais.
Parce que du coup j'avais vu la présentation du guide à la nuit d'écran à Paris.
Ouais.
Et ouais. Alors mon ancienne boîte, attention, ouais, c'était une boîte qui proposait un jeu avec de la crypto-monnaie. Donc déjà sur l'écologie on
est. Ouais, super. Ouais.
Sauf qu'on nous a fait la présentation du projet en nous disant qu'ils voulaient faire du bitcoin vert avec du surplus de production énergétique. Sauf que moi j'ai dit. C'est pas du bitcoin vert, c'est on fait, ouais, pas du coup tout de renouvellement d'énergie, donc ouais, c'est du greenwashing, ce qu'on,
ouais,
a proposé.
Ouais.
Du coup, j'ai dit, ben, je connais le guide, du, ouais, coup, j'aurais proposé la lecture pour que justement, ouais, ils puissent s'intéresser.
Ouais. Ouais.
Et ils m'ont dit, non, mais on va rester comme ça. Donc, du coup, on voit que le message écologique n'est pas du tout,
ouais,
c'est que,
ouais,
du marketing.
Ouais.
Et du coup,
ouais,
je me demandais comment justement on peut essayer de plus. Alors, après, je me doute que dans toutes les boîtes, par exemple, ça reste pas un si bon exemple parce que.
Non mais si, tout le monde a les mêmes problématiques, voilà, de c'est pas la priorité, on n'a pas d'argent pour...
C'est
un peu ce que j'essayais de dire tout à l'heure avec les arguments, on va dire, financiers, c'est-à-dire que ce soit en termes de risque, surtout quand ça concerne le greenwashing, pour le coup, le greenwashing, il y en a des listes comme ça, des entreprises qui se sont fait allumer par le greenwashing. Donc pour le coup, il faut vraiment faire attention. Les lois, elles sont béton solide, il y en a des pages et des pages, donc là on a résumé, mais franchement il y en a un paquet, surtout pour les entreprises numériques, parce que notamment récemment dans la dernière loi sur le greenwashing, ils ont aussi mis en place un truc où tu es obligé d'annoncer combien de temps ton service il va durer et combien de temps il va être en ligne. Donc ils sont vraiment en train de se pencher les questions sur l'impact écologique. Et puis, je sais, alors, sur le business case, je sais qu'il y a Playing for the Planet qui vient de sortir un guide qui s'appelle sur le storytelling un peu vert, tout ça. Donc, c'est un gros guide. Hein, mais Playing for the Planet, ils sont toujours même, parce qu'ils ont toujours un début qui parle globalement du business case. Et là, on est en train de travailler aussi sur un autre white paper avec Playing for the Planet sur l'efficacité énergétique. Et où il y a notamment, pareil, tout un paragraphe, en fait, toute une section qu'on va faire justement sur le business case, pour montrer un peu ces arguments que je viens de vous sortir sur le fait que c'est important pour les joueurs, mais avec un peu plus de chiffres, un peu plus de trucs, dire voilà les bénéfices concrets que ça apporte. Donc, moi, c'est ce que j'essaye de dire, à part ouais, vous n'avez pas le choix, ça avance et puis bah, y a un moment donné ça va vous rattraper en fait, c'est ça surtout. C'est qu'un jour ça va débarquer, tu sais pas, et tout le monde va paniquer et
bon. C'est la corde sur laquelle j'avais essayé de tirer en me disant, vous vous rendez compte que l'image que ça va renvoyer de vous,
Sûr.
Ça n'avait pas forcément pris comme vous le voulez,
ouais.
Mais
ouais.
Voilà, c'est, en tout cas c'est les cordes ou les leviers que j'essayais de...
Tu peux, après, tu peux pas.
Non, on peut pas.
Voilà, on peut pas tout. Oui. Voilà. Hein, c'est un peu. Parfois, c'est David contre Goliath et tu peux pas.
Oui, mais voilà. En tout cas, c'est bien que ce soit plus rigide parce que du coup, ça va les obliger quelque part.
C'est ça. Ça ne fait que se renforcer. Donc, à un moment donné, ça va devenir obligatoire. Mais... Anticiper quoi. En tout cas, les joueurs et les populations s'y attendent. Hein, que ce soit... je parle des joueurs, mais tout le monde. Hein. Enfin, je veux dire, je pense qu'on est tous en train de se dire, attends, va quand même falloir que... Déjà, Shine, on n'aime pas trop. Enfin, il y a des trucs quand même. On réalise qu'il y a des problèmes. Quoi, donc,
J'ai deux petites questions.
Ouais.
Alors, le jeu vidéo, ça reste quand même avant tout une industrie.
Ouais.
Qui est soumise aussi à l'offre et la demande.
Est-ce ouais.
qu'on pourrait pas aussi voir du côté des utilisateurs en passant par exemple par Giros, en
ouais.
envisageant, ce serait au niveau européen, une sorte de pictogramme qu'on pourrait mettre sur chaque jeu, un peu comme le PEGI, enfin,
ouais, ouais, tout à
regarder
fait.
Comme
ouais.
le jeu, quel degré d'écologie qu'est est le jeu, ce qui permettrait, en tout cas ce qui pousserait les
ouais.
industriels à s'y mettre, puisque visiblement, vu les scores des joueurs qui le réclament, ça pourrait aussi venir des utilisateurs eux-mêmes, ça c'est la première question.
Tout à fait. Ça
et
fait...
la deuxième, ouais. est-ce que, je ne sais pas si vous avez déjà envisagé ou si vous envisagez plus tard de le faire, de créer la même chose, mais du côté des utilisateurs, pour que chacun installe sur sa bécane
ouais.
ou dans, sa propre, dans son propre foyer pour savoir finalement où il se situe en termes de pratique de son jeu. Est-ce qu'il y a une pratique écologique? Est-ce que laisser sa console en veille pour pas rater le dernier téléchargement de DLC, c'est
ouais.
bien ou des choses comme ça peut être quelque chose envisageable pour vous?
Alors, nous, on se concentre vraiment sur la partie studio, parce qu'on est une toute petite équipe, on est deux personnes, et donc, bon, on ne peut pas tout faire. Par contre, il y a nos amis de Game Impact, qui, pour le coup, vous êtes plus concentrés sur la partie joueurs, utilisateurs, etc. Donc, pour le coup, quand on parle d'éco-pratique pour les joueurs, on les envoie vers Game Impact, parce que nous, on ne s'en occupe pas. On met notamment le lien vers votre guide, qui est absolument super. Par contre, sur la réflexion du score, hein.
Je l'ai en flyer.
Ouais, ah bah, très bien. Moi aussi j'ai failli. Pour le score, par contre, on y a pensé. Alors, c'est très politique. Hein.
Oui.
Évidemment, personne n'a envie de voir un score par ça, mais en même temps, le NuScriSort, personne ne voulait non plus. Donc, et c'est quand même arrivé. Donc, nous, on travaille dessus, on le recommande. On est en train de bosser, comme je disais, je ne peux pas en parler, mais avec une plateforme de future, peut-être, plateforme de distribution qui pourrait implémenter un truc comme ça avec un score Giros. Et du coup, bah, on initierait ce truc-là, mais pour l'instant, ce n'est pas... Par contre, on bosse quand même avec l'ADEME en ce moment sur le PCR jeux vidéo. Alors, le PCR, je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est que le PCR. Non, RCP, pardon, je vais y arriver.
Le PCR, c'est
un
type de...
Oui, oui, non, non, pardon, c'est... Et puis, produit carbone footprint, enfin bref. Non, non, RCP jeux vidéo, donc le RCP... Voilà. Le RCP... Là, du coup, je vais dans mes cours avancés, c'est très bien, mais... Le RCP, c'est globalement des référentiels catégoriques produits de services numériques. Donc l'ADEME, en fait, définit du coup des méthodologies d'évaluation environnementale pour chacun de ces, pour plusieurs types de produits. Et on est en train, en ce moment, de travailler avec l'ADEME pour le développement du PCR pour le jeu vidéo. Donc normalement, quand ça c'est sorti, bah, ça nous donnera quand même un petit peu plus une norme à tous pour comment est-ce qu'on calcule le truc. C'est bien parce que heureusement ça s'appuie sur Giros parce qu'on a fait quand même tout le travail de calcul déjà derrière en partie avec l'ADEME mais aussi avec Icar qui était un, pas Icar mais Icar un autre Icare enfin avec un seul R qui était notre partenaire sustainability avec qui on a défini la méthode parce qu'il n'y avait pas de méthode quand Giros a été créé mais c'est sur les roues. Toutes les entreprises, tous les studios qui peuvent encourager qui que ce soit, et tout le monde, et surtout le gouvernement, à ce qu'on ait un score jeux vidéo, oui, 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 allez-y, on a besoin d'aide, parce que bah, on se bat quand même contre les lobbies, la force des lobbies, bien sérieux. Quoi.
Là, ça peut venir que du niveau européen.
Ouais, ouais, mais franchement, au niveau européen, la France est vraiment le plus pays qui avance, franchement, plutôt vite. On est les seuls à avoir mis l'éco-conditionnalité des aides, par exemple. On est les seuls à avoir un calculateur qui était financé par l'État pour calculer son impact environnemental pour le jeu vidéo. il y en a, il y a les Suédois qui avancent un petit peu, il y a les Suédois qui ont fait un calculateur, mais globalement, ils sont arrêtés là. Donc, bah, malheureusement, c'est un peu nous, c'est un peu la France qui va devoir mener la charge sur l'écologie. On essaye, on bosse, d'ailleurs, on est partenaire avec des Allemands, avec la Sustainable Game Alliance, qui, eux, sont quand même un petit peu impactants aussi en Allemagne. Mais ça traîne, ouais.
C'est par rapport à ça justement. Ouais. C'est qu'en France, c'est qu'on a des politiciens qui sont vachement engagés, ou est-ce que c'est parce qu'on a une grosse industrie du jeu vidéo par rapport aux autres pays européens ?
Notre industrie du JV, elle est pas mal, mais elle est pas beaucoup plus conséquente, parce que t'as d'autres pays, genre la Pologne, l'Allemagne, bon, qui ont quand même pas mal de secteurs du jeu vidéo. Non, c'est qu'au niveau de l'écologie, en fait, on est un petit peu plus engagés, on s'est un peu plus posé les questions, peut-être. Et puis que, en fait, t'as eu des gens comme les gens de Giros, moi j'étais pas là à l'époque, mais qui se sont dit putain, mais on n'a pas de calculateur, ça va pas, qui ont été, du coup, qui ont discuté avec le CNC qui dit, ah bah oui, il nous faut des calculateurs, et en fait, ça a été vraiment un truc d'industrie, en fait, c'est un mouvement d'industrie, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de calculateur, le CNC a dit, ah, on aimerait bien en avoir un, mais il n'y en avait pas, donc il y a des boîtes qui sont motivées pour le créer. On a eu 27 studios pilotes français pour le tester et pour nous dire, bah oui, c'est un bon outil. Et puis l'outil a fini par sortir avec quelques centaines de milliers d'euros. Donc c'est vraiment une initiative nationale qu'on essaye là de développer, de pousser à l'international. Et du coup, on vient de se faire financer notamment par Europe Creative Media, qui est un fonds de financement de l'Union européenne. Donc ils sont au courant de ce qu'on fait, ils nous supportent. Et donc là, en fait, dans le cadre de notre projet, on doit sortir Giros à l'Europe en full scale d'ici à dans un an et demi. Donc ça vient de nous.
C'est bien. Et si je reviens sur le cas de, au niveau international, on prend la carte du début, qui était assez parlante pour moi. Si le marché nord-américain, notamment le marché états-unien, n'entre pas dedans, il risque de ne pas y avoir forcément de suite, puisque ça reste quand même le deuxième marché mondial. Mm-hmm. Alors si la Chine s'y met, d'accord, si le marché états-unien, là c'est assez flagrant sur la carte, est-ce que, pareil, si des entreprises ou si des jeux de sociétés américaines veulent être vendus en Europe et que ce genre de pictogramme arrive, est-ce qu'ils accepteront, eux, de leur côté aussi, de jeux
de jeu ? Après, c'est des taxes qui se mettent en place.
Comment ?
C'est pas des taxes qui se mettent en place, comme la CVAA aux États-Unis, sur tout ce qui est accessibilité, justement. C'est ce qui a permis qu'il y ait une accélération en Europe, notamment via Ubisoft, parce qu'il fallait bien qu'ils vendent des jeux aux États-Unis, c'était pas le marché. Donc ça peut être à l'inverse, on leur impose des taxes comme ça et ils seront obligés d'être compliant, sinon tu taxes.
Tu as des grosses questions sur la compétitivité. Et c'est pour ça aussi que je pense que l'État réalise aussi de plus en plus. J'étais en audience à la BPI cette semaine, donc je peux vous le dire, se préoccupe quand même de la souveraineté de nos données, de nos plateformes, réalise bien que aujourd'hui on est complètement soumis au monopole des plateformes de distribution américaines, qu'on n'a aucun pouvoir de décision sur ce qui est finalement communiqué auprès des joueurs et comment ça l'est. Donc il y a des initiatives de plateformes souveraines qui se lancent. Maintenant, il faut qu'elles soient validées, il faut qu'elles soient financées, il faut que ça se fasse. J'ai un grand espoir. J'attends la décision de la BPI avec impatience, peut-être qu'on pourrait voir émerger une plateforme européenne souveraine pour distribuer des jeux. Et du coup, là on aurait un lieu où on peut vraiment
proposer quelque chose. Un peu avec Good Old Games.
Avec
GOG.
Oui, mais alors GOG, ils sont polonais.
La boîte de...
Oui, et eux, effectivement, avec leur DRM, ils proposent quelque chose d'avantageux. Mais alors, GOG n'a pas réussi vraiment à se différencier de Steam aujourd'hui. Hein, franchement, ils sont sur le même cœur de marché. Ils sont sur les joueurs. Ils proposent des mass-media market. Ils proposent les jeux les plus populaires. Ils sont moins avancés en termes de recommandations sociales et globalement sur à peu près tout, à part sur la DRM. Ils ont du mal à se positionner, en fait, différemment de Steam.
Même c'est ceux qui proposent les vieux jeux, justement. C'est là-bas que 90% des vieux jeux introuvables sont trouvables.
C'est vrai. Mais du coup, ils ont cette niche et en termes de part de marché, ils arrivent pas trop à émerger. Donc, et alors, on a parlé avec eux, avec GOG. Et alors à la base, ils étaient intéressés, puis en fait, ensuite, c'est passé en interne et c'est arrivé jusqu'en haut, ils ne sont plus intéressés.
Mais il y a peut-être le changement de direction possible.
Voilà. Donc nous, on est là, on attend, on est proche. Et d'ailleurs, dans le cadre de notre projet européen, on bosse avec les Polonais et les Croates. Et du coup, GOG était vraiment partie des gens qu'on regarde de près et avec qui on veut vraiment, vraiment discuter. On a eu une première discussion qui avait l'air de bien marchouiller. Et puis entre-temps, voilà. Suite au prochain épisode.
C'est dommage, ils sont vraiment positionnés.
Ouais. Mais tu vois, même eux, ils n'avaient pas vocation à vraiment faire le pas en avant que cette autre plateforme qui n'est pas encore sortie, mais qui peut-être sortira un jour, voudrait faire avec un vrai affichage de score Giros, avec un vrai truc qui dit non, c'est ça ton impact. Ça aurait été un truc peut-être un peu plus léger. Quoi. Mais Games Planet le fait. Games Planet le propose, et pour le coup, moi je trouve que Games Planet a quand même la capacité à se différencier un petit peu, mais ça reste franco-français, c'est peu utilisé dans le monde, donc ils n'ont pas atteint la taille de marché pour